Moi, c'est Sarah. Je suis en troisième année à l'Académie ESJ en service civique à Radio Campus et avec des amis, on a créé le podcast On perd le Nord.
Moi, c'est Fanny. Je suis en philosophie et aussi en école de journalisme et je fais partie de l'aventure On perd le Nord.
Et donc, moi, c'est Léo. Je suis en études culturelles et je prépare aussi les concours de journalisme cette année.
Et moi, je m'appelle Quentin et voilà, je suis aussi dans l'équipe On perd le Nord. Je suis le type qui fait le bilan carbone.
Avant de parler du bilan carbone, comment c'est né c'est quoi la genèse de ce podcast écolo On perd le Nord?
Ouais, alors déjà, je mentionne aussi, donc on est nous quatre dans On perd le Nord et il y a aussi trois autres personnes, donc on est une équipe de sept en tout. On perd le Nord, c'est parti d'un groupe de potes. On avait fait pas mal de projets ensemble qui étaient des projets souvent de presse écrite, de vidéo un peu. Et on est parti en Erasmus pendant un an, on s'est pas vu. Et en revenant, on s'est dit ce serait cool de repartir avec un nouveau projet tous ensemble. On est tous très sensibles aux enjeux environnementaux depuis un moment. Et on s'est dit que c'était le moment peut-être d'essayer de changer un peu de format, de partir sur du podcast qu'on n'avait jamais fait. On avait fait un petit peu de radio, mais plus des émissions voilà, avec des très courts reportages, du micro-trottoir, des choses comme ça. Et on voulait faire un truc un peu différent, plus reportage, plus posé, plus dans le long terme et dans la réflexion. Donc on a essayé de faire ça, on s'est donné un format de 2 fois 15 minutes à chaque fois, où on se force à faire du terrain, et voilà, avoir à la fois une parole d'expert, une parole aussi de personnes qui vivent un peu tout ce qui va être changement climatique, impact sur la biodiversité, ce genre de choses. Donc voilà, c'est de là qu'est parti le Nord, on perd le Nord,
et ça tient encore...
Enfin, moi, ce que je me disais, c'est qu'on parle beaucoup de ce qui se passe en Antarctique ou en Amazonie ou ailleurs et qu'en fait, on regarde pas forcément ce qui se passe autour de nous. Et en fait, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'enjeux environnementaux et climatiques en fait, dans nos régions et très proches de nous. Et comme on est des étudiants et des étudiantes lillois, en fait, on s'est dit autant faire ça à côté de chez nous, ça nous concerne, quoi.
Puis ça faisait 4 ans, là c'est notre 4e année, mais on avait déjà côtoyé Lille, on avait plus ou moins fait des projets dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais, déjà journalistiquement au sein de médias étudiants où on était avant, et on se rendait compte que le thème de l'environnement, de la biodiversité, du réchauffement climatique, c'était pas des thèmes où on allait vraiment en profondeur. Et surtout nous, ce qui nous tenait à cœur aussi, c'était de réussir à rencontrer des personnes et à partir de leur vécu à eux. Et on était persuadés qu'en fait, en tant qu'étudiants, on pouvait réussir à avoir le temps d'aller rencontrer des gens, de discuter avec eux et pas simplement se cantonner à une parole d'expert. Parce qu'on le voit, nous, autant on est en études de journalisme, donc on est plus ou moins sensibilisés au sujet, on peut plus ou moins citer l'impact et le vécu des personnes qui subissent ça. Mais personnellement, moi, en tout cas, dans mon entourage, ça reste très souvent cantonné à des chiffres et à quelque chose de très imprécis, ce que c'est que le réchauffement climatique. Donc je pense qu'il y avait aussi cette envie d'apporter aux personnes qui vont nous écouter et peut-être aussi aux jeunes de se dire c'est pas que des chiffres, il y a vraiment une réalité derrière.
Je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont dit. Moi, c'est vrai qu'au début, j'avais pas forcément pensé à cette thématique-là. Et quand c'est aussi Quentin qui nous en a parlé en premier. Et quand il nous en a parlé, moi, c'était déjà quelque chose qui commençait vraiment à m'intéresser, notamment plutôt en philosophie, justement. J'aime bien m'intéresser aux enjeux environnementaux dans cette thématique-là et me dire, ah oui, ok, moi, je vais pouvoir mêler cette théorie avec Baptiste Morisot, Pablo Servigne, etc., que j'ai un petit peu appris à apprivoiser. À voir un peu sur le terrain comment ça marche, comment est-ce que les gens vivent, est-ce qu'ils se rendent compte en fait qu'il y a le changement climatique qui est là. Et justement, c'est aussi intéressant de se dire qu'on va beaucoup parler, enfin on a beaucoup parlé de la Gironde cet été, etc. Mais on pense rarement au Nord, je pense pas que on imagine un grand soleil en train de brûler tout, c'est pas du tout l'image qu'on a du Nord, et c'est pas le cas quotidiennement, mais qu'il y a plein d'autres problèmes et enjeux qui sont là et dans toutes les régions, et que même si on vient pas du Nord, on écoute ce podcast, se dire « Ah mais si ça touche le Nord, ça touche aussi ma région », et donc vraiment avoir cet aspect-là de « c'est proche de nous », et est-ce que les gens, ils le ressentent ou pas ça ? Et c'est ce qui m'a vraiment intéressé aussi dans le projet.
Alors quand on parle d'environnement, d'écologie, ça peut être technique hein, parfois, il y a des paroles d'experts. Alors quel équilibre vous voyez, vous essayez de respecter entre les habitants, entre les experts, mais peut-être aussi les collectifs militants qui peut y avoir dans la région ?
Je trouve que, par exemple, on a eu certains, enfin, en tout cas, moi, les deux épisodes où j'ai participé, donc sur la pollution de l'air et la pollution de l'eau, je suis très pollution.
C'est l'expert pollution.
L'expert pollution. Justement, on avait besoin de paroles d'experts, éthiquement, sur la pollution de l'eau. Avec Quentin, on s'est beaucoup pris la tête parce que c'était des termes techniques qu'on découvrait au fur et à mesure du podcast. On a dû relire plusieurs fois les articles, appeler des journalistes pour qu'ils nous expliquent. Et donc, c'était un peu compliqué parce qu'on avait vraiment envie d'avoir cet aspect local, mais à la fois, la thématique qu'on abordait était assez tellement scientifique qu'on a été nous-mêmes un peu surpris. Et des fois, justement, on essaye un peu de à la fois quand même laisser la place aux scientifiques parce que c'est véritablement des gens qui ont des choses à nous apprendre et des choses à apporter. Et en même temps, essayer de peut-être un peu de le vulgariser et même d'expliquer aux gens qu'on a rencontrés, notamment lors de notre micro-trottoir. Voilà, nous, on vient d'apprendre ça. Vous avez aussi vu dans les médias. Est-ce que concrètement, vous le ressentez chez vous? Et toujours un peu faire cette passerelle entre le côté scientifique dont on a besoin et le côté concrètement dans vos vies, est-ce que ça s'applique?
Ouais, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'en fait, on fait donc un sujet, c'est une émission. Et une émission, c'est deux épisodes d'environ 15 minutes. Et on essaye à chaque fois de faire, quand on peut, un épisode un peu plus technique, scientifique, où on va parler avec des chercheurs du CNRS ou avec, là récemment sur la pollution de l'air, une épidémiologiste. Et puis, ça va être une partie plus technique, scientifique. Et un deuxième épisode où là, on va plus sur le terrain, on va rencontrer les gens, on prend des histoires, et puis... On essaie de voir un petit peu ce que ces personnes vivent là en lien avec ce sujet-là. Et donc, je trouve que c'est vraiment cool ce format-là qu'on a. Et ça fait deux épisodes très différents et qui se complètent très bien.
Après, la difficulté qu'on peut avoir aussi bien du côté des scientifiques et de réussir à vulgariser ce qu'ils disent, c'est aussi parfois réussir à trouver des habitants qui sont conscients que ce qui se passe actuellement, c'est pas forcément normal. Par exemple, pour la pollution de l'air, on a été confrontés à ce souci de se dire que c'est quand même quelque chose qui est pas palpable et qu'on réalise pas forcément directement qu'on va être impacté et que la qualité de l'air, c'est important. Donc il y a aussi des fois cet enjeu de réussir à trouver un angle, à trouver une manière de bien personnifier ce qui est en train de se passer. Il y a des sujets où c'est plus, on va dire, facile, entre guillemets, quand on va parler d'agriculture, par exemple, quand on a fait un épisode sur la sécheresse, là, on a réussi à trouver quelqu'un qui en parlait. Mais il y a des épisodes où il faut un peu plus se creuser la tête et c'est là aussi un peu le challenge parfois.
Mais oui, sachant qu'on a toujours vachement besoin de cet angle scientifique quand même, parce qu'on est sur, c'était un peu le prérequis de départ. De savoir, on parle de bouleversement climatique, on parle d'impact sur la biodiversité. Il faut derrière du solide et des chiffres. On ne peut pas dire parce qu'on a vu un escargot se faire écraser devant chez soi qu'on est tous en train de crever.
On n'est pas des experts.
Du coup, voilà, à chaque fois, on fait quand même très attention à avoir une vraie parole d'expert et des vrais chercheurs derrière. Mais toujours en essayant de rendre ça pas trop chiant. Parce que des rapports du GIEC, on les trouve sur Internet, mais personne ne les lit. Parce que voilà, c'est normal, c'est beaucoup trop technique et trop complexe. Que d'avoir cette espèce d'équilibre un peu où on va trouver à la fois le maire du village qui nous raconte qu'il y a trop d'éoliennes, qu'il y a beaucoup d'éoliennes chez lui et que le type de 85 ans qui est en dessous de l'éolienne, il est à moitié pas content parce que ça fait du bruit et à moitié content parce que ça fait aussi des thunes. Et voilà, c'est un peu essayer de personnifier et de rendre tout ça très vivant, quoi. Toujours en valorisant une espèce de background scientifique un peu. Et c'est ce qu'on essaye de faire.
Bonjour.
Enchanté.
Donc l'intérêt du paysan, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, quoi.
Donc vous laissez la terre couverte, vous laissez mauvaises herbes ou quoi.
Comme ça, avec la photosynthèse, avec les échanges qui se font. Je suis pas scientifique, j'explique à ma façon. Non mais voilà.
Et comme ça, dernier moment, vous l'enlevez, vous replantez.
Ouais.
Est-ce que c'est du militantisme? Comment vous voyez ça, vous le...
Du militantisme, pas forcément, je pense. Parce qu'on a quand même une démarche qui est foncièrement journalistique. Mmh. Et le journalisme militant, alors après, c'est tout un débat.
L'engagement.
Engagé. On est engagé parce que clairement, on n'a pas de souci à dire que
ça va mal.
Pour avoir le réchauffement climatique, qu'on perd la biodiversité a des problèmes. Voilà, c'est vrai que même le titre du podcast est assez éloquent. Après, on a toujours quand même cette perspective de toujours être à même de nous remettre en question. Parfois, on part avec des préconçus et on se dit, en fait, après une semaine de recherche, peut-être qu'on a un peu dramatisé cette réalité. Ou à l'inverse, peut-être qu'on a commencé à fouiller par là, mais en fait, là-dessus, il n'y a pas grand-chose. C'est plus à gauche qu'il faut aller voir. Et du coup, Mais par contre, on n'a pas de problème à être au contact de militants et on a déjà bossé avec Extinction Rebellion, etc. Ouais. Parce qu'ils ont aussi une parole hyper légitime et hyper importante à apporter.
Et ouais, non, c'est juste pour ajouter ce que disait aussi Quentin, c'est ça, c'est aussi le problème de si on s'inscrit dans une démarche militante, même si je pense que toutes et tous ici, on est bien sûr concernés et consternés par ce qui se passe actuellement. Si on s'inscrit un peu dans cette démarche-là, bah, on va des fois, typiquement, je sais que sur les sujets comme la pollution de l'eau, l'éolienne, et je ne sais plus exactement quel sujet, il y a toujours un moment où on arrive et on se dit « Ah oui, on va prouver que l'eau est polluée et que ce n'est pas bien. » Et puis, enfin, je ne dis pas que c'est bien que l'eau soit polluée, mais en effet, en parlant avec l'ARS, qui était quand même assez, voilà, qui s'y connaissait dans ce domaine-là, ils ne nous ont pas dit que c'était... Enfin, ils ont aussi leur démarche à eux pour éviter de trop se mouiller. Mais d'un autre côté, ils nous expliquent que oui, il y a des normes qui sont mises en place et des fois, le gouvernement peut mettre vraiment une grosse barrière de prudence, etc. Et donc, je me dis que si j'avais été militante, j'aurais pas accepté de leur donner ce truc-là, de dire, bah, en fait, on va vraiment nuancer. Et je pense que la différence entre engagé et militantisme, c'est vraiment arriver à laisser place à la nuance et à vraiment traiter les reportages sans y mettre autant d'affect qu'on y aurait mis si c'était une cause pour laquelle vraiment on était militant.
Mais aussi, je pense que aussi on est tous d'accord pour dire que quand tu es journaliste ou quand tu veux essayer de produire des choses journalistiques, c'est que tu veux faire quelque chose qui est d'intérêt public. Aujourd'hui, quand on parle du réchauffement climatique, quand on parle de la pollution, ce sont des choses qui sont quand même d'intérêt public, qui nous concernent directement. Et je pense qu'on a encore trop tendance à penser que quand on va parler de l'environnement, c'est militant. Mais en fait, c'est pas militant, c'est nécessaire. Parce qu'actuellement, il y a une urgence et c'est reconnu par d'autres médias, par des écoles aussi de journalisme. Si on parle vraiment genre juste en tant que nous, futurs journalistes, les écoles qu'on prétend intégrer, elles ont signé une charte de réussir à traiter l'info de la manière la plus scientifique et neutre possible quand on va parler de l'environnement, sans pour autant être militant. Après, ça vaut ce que ça vaut, cette charte, mais en attendant, ça montre que même dans le monde du journalisme, il y a cette question de est-ce que c'est d'intérêt public de parler de l'environnement ? Si oui, bah pourquoi est-ce qu'on s'empêche d'en parler ? Et en plus, comme a dit Fanny, on met à chaque fois la nuance et on ne va pas avoir peur d'aller questionner des politiques comme d'aller questionner des militants. On n'a pas peur d'aller partout en Perle Nord.
Mais c'est vrai que cette nécessité d'en parler, finalement, est aussi une démarche militante d'un côté, en fait. Et il y a peut-être une ligne un peu floue, quoi, dans le côté où est-ce qu'on arrête de porter nos convictions. Enfin, voilà, on est tous plus ou moins éco-anxieux à un certain niveau. Voilà, à quel moment on arrête nos convictions, à quel moment on fait débuter l'objectivité, à quel moment on est objectif et pas militant. Voilà, mais en tout cas, la ligne est floue, mais on essaie de toujours jongler de manière à garder cette objectivité et cette capacité de remise en question, ce qui ne nous empêche pas, après, de dire que, voilà, par exemple... L'Adréal peut faire des trucs chelous quand il s'agit de pollution de l'eau avec des métabolites, enfin des trucs comme ça, voilà. On n'a pas de problème à remettre en question aussi bien des militants que des institutions, que nous-mêmes.
Alors il y a des podcasts qui parlent de l'agriculture, de la pollution de l'eau, de l'air, tu en as parlé, des éoliennes. Il y a un épisode aussi sur le collectif à Lille qui lutte contre l'extension de l'aéroport.
Ouais.
Alors comment vous choisissez vos thématiques et puis peut-être... un scoop sur les prochaines thématiques et vos prochaines enquêtes ?
Le processus pour choisir des sujets, il est très aléatoire et très brouillon, en fait.
Selon nos envies, je crois.
Selon nos envies et aussi parfois en fonction de l'actu, par exemple pour la pollution de l'eau ou pour quand on avait suivi Extinction Rebellion qui était contre l'agrandissement de l'île des 15, parce qu'à ces moments précis, il y avait de l'actu. Pour Fanny, il y avait déjà une enquête du Monde qui était sortie sur la pollution de l'eau, sur les métabolites de chlorure d'azote. Et pour Extinction Rebellion, c'était justement un moment où il y avait un recours concernant l'agrandissement et donc ça commençait un peu à bouger au niveau de l'île. Donc je pense qu'il y a un peu des fois cet enjeu d'actualité.
Mais le process de base, ça reste, enfin en tout cas c'est ce qu'on a fait au début, on a trouvé de la data. Voilà.
Ouais.
On a été éplucher des rapports de l'Adréal. L'Adréal, c'est la direction régionale de l'environnement et je ne sais plus du titre, enfin voilà, c'est le monsieur environnement en gros du gouvernement et qui a implanté à l'échelle régionale. Donc voilà, on va éplucher des rapports de l'Adréal. On va récupérer des données brutes sur les sites de la région, etc. On regarde ce qui se passe et on se dit, ok, bah là, on a vu que je sais pas, la surface forestière représente seulement 8% de la surface totale du Nord. Le chiffre à vérifier, mais dans ces eaux-là.
On identifie
se dit, de là, voilà, c'est moins que dans d'autres régions. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un sujet? Et c'est de là qu'on part et après, on tire un peu la ficelle et on déroule la pelote. Voilà.
Puis comme ça fait 4 ans qu'on est là, on a déjà un peu certains réflexes, certains sujets où on se dit « Ah, j'en avais entendu parler à l'époque, que ce soit des phoques, que quand on était allé prendre en photo à l'époque. » Enfin, c'est des choses comme ça. Quand tu connais un peu le territoire, forcément, tu as plus de facilité peut-être à te pencher sur certains sujets. La pollution de l'air, on savait déjà que c'était un peu pollué de base avant de
et
se pencher sur le sujet. Et pas qu'un peu. Si vous écoutez l'épisode.
Voilà.
Le 21 septembre 2022, Le Monde titrait « Pesticides, de l'eau potable non conforme pour 20% des Français ». Le soir même, un complément d'enquête était diffusé sur France Info, établissant qu'un quart des communes françaises seraient concernées par la pollution de l'eau par des pesticides ou leurs molécules dégradées que l'on nomme aussi métabolites.
Dans les Hauts-de-France, 65% de la population serait concernée par la non-conformité de l'eau, selon les chiffres établis par les journalistes du Monde. Cela représente près de 4 millions de personnes.
Suite de notre entretien avec Sarah, Fanny, Quentin et Léo, une partie de l'équipe de On perd le Nord, podcast écolo régional. Alors justement, les Hauts-de-France, c'est un territoire où il y a beaucoup de problèmes écologiques, un territoire aussi qui n'est pas particulièrement en pointe sur l'écologie. Comment vous voyez un peu les choses? C'est grave, docteur, hein?
Oui, c'est grave.
Oui, c'est grave.
C'est grave. Tout va pas mal, mais les chiffres sont quand même alarmants, les faits sont quand même alarmants. C'est pas que dans les Hauts-de-France, mais nous, on s'intéresse aux Hauts-de-France. La pollution de l'air, par exemple, la région, c'est l'une des plus polluées d'Europe. Quand on regarde les chiffres, c'est 18 personnes qui meurent chaque jour dans les Hauts-de-France prématurément de la pollution de l'air. Donc c'est quand même énorme. Donc oui, en fait, on se rend compte que dans les Hauts-de-France, il y a beaucoup de problèmes. Mais je pense que si on se concentrait sur les Pays de la Loire ou sur le Grand Est, il y aurait d'autres enjeux, en fait. Donc voilà.
C'est vrai que les Hauts-de-France ont quand même cette particularité de cumuler un peu les critères qui font qu'elle est hyper intéressante à étudier d'un point de vue journalistique et d'un point de vue journalisme environnemental. Parce qu'il y a d'abord la proximité avec la mer qui la rend sujette à tout ce qui est érosion des côtes, du littoral. Il y a l'existence de Watringue, je ne sais pas, je suis de Charente, je ne sais pas encore trop prononcer les Watringues, c'est les zones qui sont situées en dessous du niveau de la mer, en fait, c'est des zones de terre. Et donc qui sont particulièrement sujettes à tout ce qui est inondation, submersion marine, etc. En plus de ça, c'est un département qui est hyper urbanisé, hyper industrialisé, il y a des très très grosses usines. Vous regardez la carte un peu des principaux pollueurs en France. Vous êtes essentiellement dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, au niveau de Dunkerque notamment. Il se passe plein de trucs dans le coin.
Non, moi c'était exactement ce que je voulais dire aussi. Et oui, c'est vrai qu'en termes d'agriculture, par exemple, je sais que l'industrie betteravière qui est essentiellement présente dans le Nord, et on a vu que ça a été la source, par exemple, de pollution de l'eau, mais pas que. En fait, les pesticides qui ont été utilisés avant les années 90, en fait, ont été pour la plupart reconnus comme un peu les plus nocifs, et partout en France, c'est le cas. Donc, on a aussi dans le Grand Est, il y a pas mal de cultures de betteraves. Et donc là, je parle juste de ce cas spécifique, mais ça pour dire que je pense que c'est une région, avec son passé minier, etc., qui peut-être a incorporé beaucoup de pollution, et on a laissé beaucoup faire les choses. Et aujourd'hui, on se réveille avec un territoire qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on apprend à connaître, et on voit un peu les dommages du passé qu'on a infligé à une population qui était précaire, ouvrière, et on s'en fichait un peu de savoir si tout ce qu'on mettait de pollution allait dans le Nord ou pas. Et voilà, je pense qu'il y a aussi ce passé-là qui est aussi important et auquel je pense que les médias nationaux font pas forcément hyper attention, et donc c'est aussi important d'aller interroger, de comprendre, et voilà.
Vous avez choisi le podcast pour ce média. Pourquoi la radio? Pourquoi le son? Pourquoi le podcast?
Ben, moi, si... je pense que déjà, de base, on avait tous un peu fait de la presse écrite, et que c'était un peu en consensus que c'est cool, mais on avait peut-être envie d'explorer autre chose. En tout cas, pour ma part, moi, j'avais envie d'explorer autre chose. Et pour les expériences que j'ai pour l'instant sur les épisodes que j'ai fait, là, je parle juste à titre perso, le fait d'avoir des voix, je trouve que ça rend très intime le traitement qu'on va avoir d'une chose, et ça permet vraiment d'aborder avec beaucoup d'humanité un sujet qui pourrait paraître très compliqué, en fait, au premier abord. Quand on écoute l'agriculteur qui a un accent un peu particulier, quand on va écouter des personnes qui se plaignent des éoliennes, il y a vraiment une personne derrière tout ça, et c'est des fois, je trouve que le son est encore plus fort que l'image, et moi c'est pour ça que j'aime beaucoup le podcast, parce que des fois le micro il réussit à s'effacer quand on va aller prendre des témoignages, et les personnes vont plus avoir tendance à faire des confessions, à se laisser aller, et ensuite le format du podcast, c'est quelque chose, je pense, qu'on avait un peu l'habitude de consommer de nos côtés. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, j'avais l'habitude de le consommer. Aujourd'hui, pour notre génération, en tout cas, avec toutes les applications, c'est tellement simple, en fait, de retrouver un podcast, et c'est tellement plus abordable quand on veut créer son propre média plutôt que d'aller directement vers de la radio ou essayer de créer un média de presse écrite comme il y en a beaucoup. Et il n'y avait pas tellement, au final, de podcast étudiant sur l'environnement comme ça, je trouve.
Le long format, enfin, comme tu disais, il y a le format bien sûr du podcast, et puis aussi le fait qu'on avait vraiment envie de diviser, enfin pas de diviser, mais de faire des épisodes où à chaque fois on a deux parties, on essaye d'avoir le temps, en fait, de comprendre comment on peut exploiter le sujet, et aussi même de laisser le choix aussi aux auditeurs, auditrices, d'écouter ou pas toute la partie du podcast. Enfin, c'est le but, bien sûr. Mais je pense qu'il y avait ce truc-là de vraiment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus malléable pour nous et qui était aussi plus accessible, en fait, pour tout le monde. Et voilà, il y avait de ça, là où ça aurait été bien sûr possible aussi en reportage télé, mais on a peut-être aussi moins les connaissances là-dedans. Et c'est aussi un format qui est à la fois long et court, donc 15 minutes, je trouve que c'est assez audible, et surtout pour des sujets des fois qui peuvent être un peu lourds. Donc voilà, je pense que le format long était parfait.
Ouais, moi pour ma part, je connais, en vrai, moi je j'avais jamais fait de podcast. Donc c'était première expérience podcast, et je trouve ça super intéressant parce que je trouve que moi je fais plus de. Enfin, j'aime bien la vidéo, je fais plus de vidéos d'habitude, et en fait je me rends compte que c'est, comme tu l'as dit Sarah, quand t'arrives avec un micro sur un terrain, c'est vachement plus simple aussi, je trouve, qu'avec une grosse caméra ou j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est plus. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de voir tout le temps et que écouter, c'est vraiment. Enfin, ça se raconte bien, quoi. Je veux dire, on écoute plein d'histoires comme ça en écoutant, et je trouve que c'est même plus intéressant de capter ça dans les oreilles. D'écouter ça dans les oreilles.
Oui, vous parlez d'autres podcasts. Alors. À ma connaissance, c'est le seul podcast écolo dans la région. Mais est-ce qu'il y a d'autres podcasts écolo de référence, enfin, certains que vous écoutez?
C'est Quentin, notre référence.
Ouais, il y a d'autres podcasts dans la région. C'est vrai que je n'ai jamais trop entendu parler d'autres podcasts sur ce sujet. Et tant mieux, parce que sinon, je ne sais pas ce qu'on foutrait là, peut-être. Mais en tout cas, à l'échelle nationale, il y a pas mal de trucs très sympas qui se font. Et moi, ce qui m'a pas mal inspiré aussi, cette envie de faire du podcast avec les copains, c'est notamment Denis Chessou sur France Inter, qui produit CO2 Mon Amour depuis assez longtemps maintenant, je pense. Et voilà, c'est Denis Chessou, ça reste France Inter, donc voilà, c'est un gros podcast et une grosse émission qui part en live. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il prend son micro, il va voir un gars quelque part, au fond des bois, je sais pas, ça dépend, il y a plein de sujets. Et il parle pendant 20 minutes, 30 minutes de son rapport au vivant, à la nature, et ça fait des podcasts qui sont magnifiques, avec un travail d'habillage qui est superbe. Et voilà. Et après, il y a d'autres podcasts très chouettes aussi qui se retrouvent peut-être un peu dans ce qu'on fait en Perle Nord et qui sont inspirants aussi. Je pense au Green Letter Club, qui est un podcast qui fait intervenir des experts, où là, on a par exemple une interview brute d'une heure de, je sais pas, Jean-Marc Jancovici ou n'importe qui d'autre. Il y a plein d'experts qui se relaient, souvent des grosses pointures. Et je pense au podcast qui a le meilleur nom de tout le podcast francophone, qui est Baleine sous Gravillon, qui lui, pour le coup, de mon point de vue, est un podcast militant, mais excellent. Donc voilà, je pense que c'est trois très bonnes références de podcasts environnementaux à aller écouter. Après avoir écouté On Perle Nord, bien sûr, sur PFM.
Surtout.
Alors vous pouvez l'écouter sur PFM, vous pouvez aussi l'écouter sur le site, et puis ouais. Aussi sur des plateformes consommatrices qui consomment beaucoup d'énergie. Alors le bilan carbone de On Perle Nord, on en parle ou pas?
On peut en parler.
Quentin peut beaucoup en parler.
Ah, c'est anecdotique, on s'est lancé dans ce grand projet de bilan carbone hier soir à 22h. voilà, non, j'exagère, hier soir à 19h. Parce que malheureusement, on est obligé de se déplacer beaucoup en voiture, parce que le réseau de transport est ce qu'il est dans le Nord, Pas-de-Calais, et c'est très cher, on n'a pas un budget non plus limité. Donc on a fait notre bilan carbone pour savoir, et voilà, dans une démarche un peu de... pas d'exemplarité, parce qu'on n'est pas des politiques ni quoi que ce soit, mais de transparence et de dire, voilà, on prodigue une information, on vous partage une info, un média, voilà derrière l'impact environnemental du média qu'on partage et de l'information que vous consommez, qui est assez maigre, puisqu'il est de mémoire, évidemment, je dis ça en regardant mon téléphone en même temps sur le plateau, donc de mémoire relative. Voilà, on libère, depuis le début de l'année sur cette émission, on a produit 157 kg d'équivalent CO2, ce qui équivaut néanmoins à 0,01% de l'impact carbone du jet de Bernard Arnault. Présumé. Donc pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Néanmoins, si Bernard Arnault souhaite nous financer pour qu'on prenne le train, qu'il n'hésite pas. Ou le jet privé.
Oui, justement, c'est un peu ma dernière question. Hein, pour réaliser des reportages, il faut un petit peu de sous. Alors vous êtes étudiant, donc pauvre.
Exactement, précaire.
Nous ne mangeons
pas
de la semaine.
On roule sur l'or.
Enfin, il faut un petit peu de moyens pour développer un média. Alors comment ça se passe est-ce que nos auditeurs peuvent contribuer, par exemple?
Merci, mamie.
Non, on a lancé une campagne de crowdfunding au début de... c'était plutôt en août, je crois.
Juillet.
Juillet, août. Ouais. Et on a été assez surpris et surprise parce qu'on pensait que ça allait mettre beaucoup de temps. On avait un objectif de 700 euros parce qu'on avait fait un tableau pour comprendre à peu près, enfin, en imaginant nos trajets, nos dépenses, etc.
Prévisionnel.
On pensait voilà, que ce serait 700 euros et en fait, ça a été relativement vite. Bon, il y a eu notre famille aussi, on ne va pas se mentir, mais aussi beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas forcément, qui ont participé, qui nous ont vraiment soutenus. Et même s'ils ne nous soutenaient pas financièrement, qu'ils nous envoyaient des messages, en fait, très vite, nous sommes dans ce projet étudiant qu'on pensait, enfin, c'est pas non plus un énorme truc, mais qu'on pensait quand même que ça allait mettre un petit peu du temps à démarrer. Et en fait, on a eu cet élan-là et je pense que ça nous a aussi réellement motivé de se dire « Ah oui, mais en fait, les gens, ils ne nous connaissent pas forcément, ils ne savent pas forcément ce qu'on a fait et ils croient en nous et ils croient en ce projet-là. » Donc, il y a pas mal de fois où, quand on, parce qu'on est aussi étudiant et qu'on a pas mal de choses à se faire, etc., et qu'on se demande, oui, est-ce que le podcast pourra être produit à temps ? Souvent, on se rappelle aussi que même si c'est 700 euros à l'échelle d'un média, c'est rien, et bah que ouais, il y a quand même des gens qui croient en nous et que du coup, je trouve que c'est vraiment une bonne source de motivation et pour l'instant, ça a rempli entièrement la fonction de nous, voilà, de nous permettre de nous déplacer, d'aller sur le terrain, de financer les micros, etc. Et c'est bah, encore un grand merci à eux et à elles s'ils nous écoutent.
C'est vrai qu'on n'aurait pas pu lancer, c'était un peu le prérequis de base, on ne voulait pas se lancer là-dedans avec nos propres sous, non seulement parce qu'on est extrêmement radin, mais parce qu'on est, voilà, on roule pas sur l'or et on ne pouvait pas se permettre de se dire de temps en temps, tiens, aujourd'hui je vais me faire un petit reportage à 70 euros qui va me demander 20 heures de travail et ne rien me rapporter derrière. Du coup, ouais, parce qu'on a eu des financements du public qui ont aussi un peu fait preuve de concept. Ça aussi, voilà, effectivement, on a, je ne souviens plus précisément, j'ai envie de dire 32 personnes qui nous ont donné de l'argent, mais il faudrait vérifier, je ne suis plus certain. Voilà, les 32 personnes qui ont été assez couillonnes pour sortir leur carte bancaire, donc il faut bien qu'on leur livre quelque chose derrière. Et donc un grand merci à eux
merci
et à elles.
Alors les prochains épisodes, alors, ça va parler de quoi alors?
Est-ce qu'on spoil ou pas?
Est-ce qu'on spoil
le prochain?
On peut peut-être dire le prochain, sans forcément dire celui qui arrive encore après. Oui.
Deux prochains même.
Ouais. Ah oui, les deux prochains.
Deux prochains, ok. Mmh. Le prochain sera introduit par Fanny Lardillier.
Alors le prochain, c'est sur la surpêche de morue sur le littoral.
Alors, je me permets de préciser, en fait, c'est sur la surpêche globalement dans la Manche.
Ah, ok.
On a nos deux amis là, qui sont pas là à PFM, mais qui sont en train de bosser dessus pour qu'ils sortent dimanche.
Donc elle bosse et nous, on se marre en plateau de PFM. Voilà, c'est super. Et le prochain, enfin celui d'encore après, sera sur les forêts du Nord. Voilà, sur les forêts, le rapport qu'on a aux forêts dans une zone hyper industrialisée et urbanisée comme le Nord. Et sur la réalité aussi écologique des forêts et de leur gestion.
Voilà, ça fait rêver quand même.
Voilà, c'était un entretien avec Quentin, Léo, Sarah et Fanny, 4 des 7 membres de la sympathique équipe du podcast écolo-régional On perd le Nord.